Le débat du jour.
Anne Souhaitemont.
Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver. Au menu du débat de ce soir, la prison, ou plutôt le régime carcéral des détenus djihadistes. Parmi les trois terroristes qui ont sévi en région parisienne début janvier en France, deux sont passés par la case prison, ou au moins l'un d'entre eux, Hamedi Coulibaly, se serait radicalisé, comme Mohamed Merah, comme Mehdi Nemmouche. Parmi les nombreuses annonces faites depuis par le gouvernement dans la foulée de cette vague d'attentats, la mise en place de 5 quartiers spécifiquement réservés aux djihadistes dans les prisons françaises. Alors, radicalisation en prison, l'isolement est-il la solution ? C'est le débat de ce soir. Et pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir trois invités. Alexandre Djouglaris, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes délégué général de l'Institut pour la justice. Par téléphone avec nous, Emmanuel Gautrin, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes secrétaire général de FO Pénitentiaire. Et puis Mourad Benchelali, bonsoir.
Bonsoir.
Vous avez une histoire particulière, je vais la résumer en quelques lignes. En 2001, vous aviez alors 19 ans, vous vous retrouvez à Guantanamo car vous êtes accusé lors d'un voyage en Afghanistan d'avoir été terroriste d'Al-Qaïda. 30 mois de détention, 30 mois auxquels s'ajoute un an et demi de prison en France. Aujourd'hui, vous tentez de dissuader les jeunes Français, de jeunes Français de partir pour la Syrie. Et vous êtes l'auteur d'un livre paru aux éditions Robert Laffont, Voyage vers l'enfer. Alors je voudrais évidemment commencer avec vous. Est-ce que, selon vous, cette idée, cette annonce qui a été faite par Manuel Valls, l'isolement de détenus djihadistes, vous semble une bonne idée ?
C'est cohérent avec l'idée que beaucoup se font de l'islam radical. C'est-à-dire que beaucoup voient ça comme une maladie contagieuse qu'on attrape à proximité de personnes contaminées. Et donc, dans la cohérence de cette idée, isoler les détenus, c'est se préserver. Simplement, la réalité, elle est différente. L'islam radical, ce sont des idées. Et moi, j'ai connu ce concept au plus haut niveau de mettre des personnes qu'on considère comme radicalisées entre elles. C'était à Guantanamo, en 2 ans et demi. Et je me pose la question. On a vu que certains, on a vu le résultat, qui est toujours pas, évidemment, on a vu les conséquences que ça a pu avoir. Et donc, la radicalisation, c'est aussi avoir le sentiment d'injustice. C'est ça, c'est ce qui nourrit aussi la radicalisation. Et donc, isoler les détenus.
C'est-à-dire que pour vous, c'est contre-productif?
J'ai l'impression, oui, voilà, c'est contre-productif.
Vous avez d'ailleurs dit plusieurs fois, utilisé ce mot, c'est presque un miracle que je ne me sois pas radicalisé. Qu'est-ce que ça veut dire ?
Ça veut dire que, je vais vous raconter mon vécu. Moi, je suis pas un spécialiste. Je vais simplement vous dire moi comment j'ai vécu ma détention quand j'étais en France. Ouais, évidemment, Guantanamo, on sait comment ça s'est passé.
Les tortures. Vous étiez à Fleury-Mérogis.
J'étais à Fleury-Mérogis pendant 1 an et demi. Alors, j'avais un statut spécifique qui était de DHR, ça veut dire détenu à haut risque. Donc, tous les quarts d'heure, il y a un gardien qui vient regarder à l'œil-ton ce que je suis en train de faire. Je ne peux pas avoir de co-détenu. Quand je me balade en promenade, il y a un surveillant qui note le numéro d'écrou de la personne qui me fréquente. Donc, c'est difficile pour se faire des amis, ça, les gens m'évitent.
Ce que vous voulez dire, c'est qu'il y avait tous les éléments pour que du coup vous cherchiez à tomber dans les bras de ceux qui cherchent à radicaliser des profils.
Oui, puis c'est difficile aussi de. Vous savez, on vous décrit tout est organisé de manière à faire de vous vous sentir. On dit de vous que vous êtes un danger public. C'est un peu ça aussi l'idée de l'association de malfaiteurs. Vous êtes quelqu'un de dangereux. On est en détention provisoire, donc on ne sait pas combien de temps ça va durer. Et donc. On s'enferme psychologiquement dans ce personnage. Et cette idée, pour en revenir, pour conclure, ce que j'essaie d'expliquer, c'est que cette idée d'isoler les détenus qu'on considère comme radicaux, faut-il savoir qui est radical, parce que c'est aussi...
Comment est-ce qu'on choisirait ceux qu'on isole?
Et donc, c'est aussi s'enfermer psychologiquement.
Et créer l'altéro peut-être de la radicalisation.
Voilà, c'est ça.
Alors, je voudrais maintenant demander à Emmanuel Gautrin, qui est donc secrétaire général de FO Pénitentiaire, ce que vous pensez de cette annonce de Manuel Valls, bonne ou mauvaise idée, ces quartiers dédiés?
Alors, vous savez, il faut voir. Il y a une expérimentation aujourd'hui à Fresnes sur un quartier spécifique où on a ce genre d'individu, de personne qui est radicalisé. Voilà, il y a une expérimentation, je pense qu'on n'a pas assez de retour et de recul par rapport à ça. Alors nous, ce qu'on préconisait plutôt, c'était des établissements spécifiques, avec des structures spécifiques, des cellules spécifiques, et un personnel adapté aussi bien pénitentiaire que un personnel pédagogique avec des psychologues, etc. Pour accueillir le public et notamment sur tout ce qui est prosélytisme ou radicalisation.
Donc voilà. Ce que vous vous dites, c'est que l'expérience est trop courte pour qu'on puisse déjà en tirer des leçons. Ça fait seulement quelques mois.
Oui, tout à fait. Par expérience, et on l'a vu, alors là vous me parlez d'isolement, il faut savoir si c'est un isolement total, si c'est un isolement simplement pour rester seul en cellule une partie de la journée, mais avoir des activités avec des co-détenus, etc. Il faut faire attention quand on parle d'isolement, parce qu'il y a plusieurs formes d'isolement. Là, on parle de quartiers isolés de la détention, mais qui sont quand même en plein cœur de la détention. Donc
oui,
on peut quand même avoir du contact avec le reste de la population pénale, soit par l'intermédiaire, par les fenêtres, par la voix ou sur différentes rencontres telles l'infirmerie ou sur des mouvements.
Et en l'occurrence, à Fresnes, c'est pas l'option qui a été choisie hein, puisque l'expérience qui est actuellement menée concerne 23 détenus, 16 sont en cellule double, donc par définition pas totalement isolés, 7 en cellule individuelle, et ces détenus continuent à participer à des activités intérieures avec les autres détenus. Donc c'est une option qui est pas exactement celle que laisse penser Manuel Valls.
Tout à fait, tout à fait. C'est pour ça que je vous dis, sur l'isolement, faut voir aussi à quelle hauteur on veut mettre la sécurité par rapport à ce genre d'individu. C'est surtout ça. Aujourd'hui, on sait faire par rapport. Il y a eu dans le passé à d'autres terroristes ou des gens des grands criminels, des grands bandits, qui étaient isolés et qui se sont adaptés à cet isolement et qui sont sortis meilleurs qu'ils n'étaient rentrés. À la prison.
Alexandre Juglaris, voudrait vous donner la parole désormais. Donc, je rappelle que vous êtes délégué général de l'Institut pour la Justice. Vous avez signé il y a quelques jours une tribune dans le journal Le Figaro et vous vous dites, comme vient de nous dire Emmanuel Gautrin, que cette expérience de l'isolement, elle vous laisse pour l'instant très dubitatif.
Le problème, c'est qu'on n'a pas de retour d'expérience. Pourquoi on crée ou on réfléchit à la création de ce type de dispositif? Parce qu'on a constaté qu'un certain nombre d'individus qui avaient commis des actes terroristes étaient passés par la case prison et que la prison avait été le lieu de leur radicalisation. Donc pour lutter contre ces phénomènes, on pense qu'il faut donc isoler les individus. Ça, à mon avis, c'est une bonne idée. Effectivement, parce que le contact avec un certain nombre d'individus qui peuvent prêcher, qui peuvent être des prédicateurs en prison, il faut isoler ces individus-là. Après, la question du regroupement, à mon avis, me laisse circonspect, c'est-à-dire qu'on n'a pas de retour d'expérience. Vous le disiez, il y a seulement quelques mois qu'on a lancé cette expérience à Fresnes, on ne sait pas, et aujourd'hui, on se lance immédiatement, on crée déjà 5 quartiers de ce type-là, peut-être d'autres mesures vont suivre. Alors, oui, isoler, je pense que c'est une bonne chose. Je souscris à ce qui vient d'être dit, c'est-à-dire qu'il faut en plus prévoir ce qu'on appelle des programmes de déradicalisation. Alors là encore, on tâtonne un peu malheureusement, on n'a pas suffisamment d'expérience, mais il faut tout mettre en œuvre pour éviter que des individus se radicalisent en prison. Ça passe sans doute par un suivi psychologique, psychiatrique, ça passe sans doute par d'autres mesures, je pense à des mesures de formation, de travail en prison, tout ça doit être mis en œuvre de manière générale, et il ne faut pas
Rappelons quand même que Manuel Valls, en annonçant ses quartiers, la création de ses quartiers d'ici la fin de l'année, a aussi annoncé un doublement des moyens de l'aumônerie musulmane en prison. Donc c'est pas une seule mesure qui est non plus proposée.
Tout à fait. Ça passe notamment, tout à fait, vous avez raison, par l'augmentation du nombre d'aumôniers musulmans en prison. Là encore, à la condition de pouvoir vérifier la manière dont l'islam est pratiqué dans les prisons. On a un problème de formation qui n'est pas récent. Enfin, je veux dire, c'est pas tout neuf comme problème. Il faut que le gouvernement se saisisse et je crois que malheureusement, les tragédies qu'on vient de connaître vont permettre d'ouvrir un certain nombre de débats.
Mourad Benchelali, donc vous qui avez été en prison, rappelons-le, à Guantanamo, mais aussi en France, à Fleury-Mérogis, est-ce que vous avez trouvé des personnes à qui parler de ce que vous craignez, c'est-à-dire de tomber dans les bras de ceux qui cherchaient éventuellement à radicaliser?
On dit qu'on n'a pas de retour d'expérience. Moi, j'en ai une toute petite. Bon, je voudrais bien en faire partager quand même.
Mais vous êtes là pour ça, allez-y.
Alors, isolé, d'accord. Qu'on commence par penser à ça, je pense pas que ce soit la bonne idée. En revanche, j'ai entendu des choses qui sont intéressantes. Moi, pareil, je m'appuie sur mon vécu. J'avais besoin d'un soutien psychologique. Parce qu'on a souvent, ces personnes-là ont quand même un parcours particulier. L'aide à l'insertion aussi. Parce que, et puis, moi, ce qui me gêne le plus,
Ça, c'est des choses qui vous ont manqué?
Oui. C'est ce qui
On vous a jamais proposé des formations
Ça a été très difficile, Mais surtout quand on est libéré aussi, hein, il faut penser aussi à l'après-prison.
Le suivi post-détention.
Il y a aussi le suivi post-détention. Ensuite, donc il y a l'isolement, il y a c'est des choses qu'on peut mettre en place. Je pense qu'il c'est plus là-dedans qu'il faut réfléchir. Donc le soutien psychologique, l'aide à l'insertion, il y a les aumôniers aussi qui manquaient cruellement d'aumôniers. Moi j'ai vécu ça aussi. C'est vrai, quand j'étais à Fleury, il y avait un seul aumônier qui est quand même la plus grande prison d'Europe. Il manquait beaucoup de moyens, et puis il y a des gens, il y a aussi des jeunes qui ont des questions légitimes par rapport à la religion, qui peuvent chercher des réponses à leurs questions, et qui, du coup, ça les empêcherait d'aller demander les questions aussi à des personnes qui, pour le coup, sont beaucoup plus radicales. Donc je pense que c'est surtout comme ça qu'il faut réfléchir. Et puis, malheureusement, il y a aussi cette présomption de culpabilité où on part du principe que c'est la personne radicalisée qui contaminerait toutes les autres. Ça peut être l'inverse aussi. On peut revenir sur ces idées. Faut pas fermer non plus la porte à la déradicalisation. Et je pense que isoler, c'est aussi laisser des gens qui ont les mêmes convictions entre elles, et du coup, ça les encouragerait à les garder.
Ce que vous voulez dire, c'est qu'en fait, en regroupant des personnes radicalisées ou susceptibles de le devenir, de l'être, elles vont s'encourager, alors que le dialogue entre détenus peut aussi faire changer des parcours.
Oui, la critique, avoir des discours critiques avec d'autres, partager d'autres points de vue avec d'autres détenus.
Vous, ça vous est arrivé de discuter avec d'autres détenus, oui, et d'avoir des discussions, oui, constructives?
Oui, oui, ça aide à réfléchir, ça m'a aidé aussi. Moi, je me suis pas radicalisé, mais je vais un petit peu vous expliquer pourquoi. C'est parce que j'ai pu me mélanger avec d'autres détenus aussi et prendre du recul sur ce que j'étais en train de vivre. Voilà. Il y a des gens qui m'ont tendu la main, ils étaient pas nombreux, mais il y a quand même une psychologue de la prison qui s'est dévouée quand même pour m'aider, etc. Donc il y a un certain nombre de choses qui sont humaines, des approches beaucoup plus humaines que sécuritaires qui m'ont aidé à tenir le coup.
Emmanuel Gautrin, je voudrais vous redonner la parole. Donc vous êtes secrétaire général de FO Pénitentiaire, vous connaissez et pratiquez le milieu carcéral. Que vous inspire ce que vient de nous expliquer Mourad Benchellali? Je sais que vous demandez des états généraux de la prison. Qu'est-ce que ça veut dire?
J'allais y venir. Ça fait plus d'un an et demi qu'on demande des états généraux de la pénitentiaire. Parce que, voilà, il y a des choses aussi intéressantes que j'entends là, à l'instant. Le problème de radicalisation ou de prosélytisme n'est pas nouveau dans les établissements pénitentiaires. Il perdure. Nous, c'est un sujet sur lequel on travaille depuis maintenant 10 ans. Et là, il y a une responsabilité de la part des politiques, quelle couleur politique qu'elle soit, parce qu'ils ont été informés de tout cela, et comme ça vient d'être dit, il faut attendre les attentats qu'on vient de connaître il y a une quinzaine de jours pour travailler sur ce problème. Aujourd'hui, nous, ce qu'on demande, c'est une classification des établissements pénitentiaires, voilà, c'est pas compliqué, au vu du profil et de la dangerosité des individus qu'on a. Après, je l'ai dit tout à l'heure, s'il faut des établissements avec des personnes qui soient isolées, avec un parcours pédagogique, encadré par des psychologues, par des personnels, par des médecins, par des aumôniers musulmans, il n'y a pas de souci, on est ouvert sur le débat. Mais aujourd'hui, la réponse, c'est le politique qui l'a. Donc, il y a un moment, il va falloir prendre les bonnes décisions au sein de l'administration pénitentiaire, et notamment au sein du ministère de la Justice, pour qu'on ait une classification de ces établissements pénitentiaires au vu et au profil de la dangerosité des individus dont on a la charge. Alors, les prisons doivent rester humaines, il n'y a pas de souci par rapport à ça.
Je voudrais faire aujourd'hui pour
y arriver.
Je voudrais faire réagir à cette proposition que vous faites, Alexandre Djouglaris. Classification des établissements pénitentiaires, c'est nécessaire, c'est une bonne idée?
Oui, c'est sans doute absolument nécessaire pour, j'allais dire, individualiser la réponse. Parce que là encore, ça rejoint ce qui vient d'être dit précédemment. Ce qui compte, c'est d'individualiser le suivi en fonction des profils. Sur la question de la radicalisation, il y a aussi un problème qui n'est pas abordé, c'est qu'aujourd'hui, les prédicateurs les plus dangereux se cachent. C'est un enjeu considérable parce qu'on ne les détecte pas plus facilement. Et c'est pour ça que la mesure qui a été annoncée par le Premier ministre, c'est-à-dire d'augmenter les effectifs du bureau de renseignement pénitentiaire, est
effectifs
absolument...
qui sont petits, on parle de 12, dizaines de personnes.
Voilà, 12 individus aujourd'hui qui suivent et qui sont chargés du renseignement dans les prisons, alors avec des correspondants locaux, mais il y a que 12 personnes au niveau national qui suivent à l'heure actuelle 800 personnes. Ces 800 personnes, c'est à la fois des personnes radicales, des islamistes, mais aussi des grands, ce qu'on appelle des grands bandits, des grands criminels, et donc c'est 12 personnes. On va augmenter les effectifs, on va embaucher 44 personnes sur les 3 années à venir. Alors, ça va dans le bon sens, mais est-ce que c'est suffisant pour suivre autant d'individus? L'essentiel, à mon avis, ce qu'il faut mettre en place, c'est un suivi personnaliser des personnes qui sont potentiellement à risque. Et en fonction des retours qu'on pourra avoir, notamment des professionnels de terrain, je pense aussi aux agents de l'administration pénitentiaire, on pourra adapter la réponse et faire fluctuer, j'allais dire, le degré de surveillance. Ça rejoint un peu ce que vous disiez, parce que il y a effectivement des individus qui, au contact d'autres détenus, vont pouvoir se réinsérer, mais il y en a aussi qui sont dangereux et qui, aujourd'hui, menacent de créer de nouveaux terroristes. Donc il faut se protéger tout en individualisant lisant les réponses.
Alors, Mourad Benchelali, je voudrais vous faire réagir à une proposition qui a été faite par un autre syndicat pénitentiaire, la CGT, qui redoute que cet isolement, notamment chez d'autres détenus, fasse qu'intégrer le groupe des isolés devienne une sorte d'objectif. Est-ce que ça vous semble être une critique plausible ? Est-ce que certains pourraient avoir envie de devenir isolés, d'atteindre ce rang ? Est-ce qu'il y a une course comme ça ?
Je pense qu'il faut relativiser un peu les choses. Je pense pas que la prison soit l'antichambre du radicalisme. Vous savez, les personnes concernées, en réalité, je crois qu'elles tournent autour de 150, les personnes impliquées, associations de malfaiteurs, etc. Donc, sur 60 000 détenus, c'est pas, en réalité, grand chose. Il y a des moyens qui, a priori, qui vont être mis. Je pense qu'il faut simplement les mettre au bon endroit. Donc, isoler les détenus, etc. Je pense pas que ce soit la priorité. On l'a dit, on l'a bien expliqué, c'est mettre des moyens supplémentaires, notamment ces moyens, l'aumônerie. Je pense que c'est là où il faut vraiment réfléchir et se concentrer. Je pense qu'il faut pas être dans la démagogie aussi, parce que je parlais tout à l'heure de mon statut dans lequel j'étais. Il y a quand même pas mal de choses qui permettaient déjà en 2005 de surveiller les détenus, de savoir qui faisait quoi. J'avais un statut de DHR, ça voulait dire détenu à haut risque. Il y avait le statut de DPS, détenu spécialement surveillé. Donc ça existait quand même, toutes ces choses-là.
Donc, ce que disait tout à l'heure Monsieur Gautrin, qui demande une classification des établissements pénitentiaires, pour vous, c'est pas la bonne chose à faire. Ça existe déjà, il y a déjà des classifications, des prisonniers différents et des régimes différents.
C'est toujours pareil, on est toujours dans le sécuritaire, on n'est jamais dans l'humain, quoi, en réalité. Pas assez, en tout cas, de mon point de vue. Je pense que c'est comme ça qu'il faut réfléchir. Il s'agit pas de faire de l'angélisme et de dire bah tout va bien, mais simplement de réfléchir à des moyens plus humains, plus de personnes, impliquer plus de personnes. Je pense que c'est comme ça qu'il faut faire les choses.
Monsieur Gautrin, vous voulez réagir ?
Oui, non. Quand on parle de classification, parce que j'ai entendu la réinsertion, etc. Mais quand on parle de classification, il y a des individus aujourd'hui dont on a la charge, qui sont incarcérés dans des établissements pénitentiaires, qui méritent effectivement qu'on s'occupe d'eux. Quand on parle de classification, nous on vous parle de prison-école, avec un partenariat avec l'éducation nationale, des prisons agricoles, comme ça se passe aujourd'hui à Casabianca en Corse, ou à Mozac. On peut parler de prison semi-sécuritaire, sécuritaire, et puis après, ultra-sécuritaire. Voilà, c'est dans cela qu'on en parle. Aujourd'hui, quand on voit, il y a des groupes de parole qui sont mis en place, je ne veux pas faire un mauvais parallèle, mais avec des personnes qui sont droguées, ça existe au sein des prisons, les alcooliques aussi, même à l'extérieur des prisons. On voit les groupes, et pourquoi pas faire des prisons avec des groupes de parole.
Oui, donc vous êtes ouvert à beaucoup d'options, mais ce que vous demandez, c'est avant tout d'avoir les moyens, c'est ça?
Bien sûr, et c'est pour ça, il y a un moment, faut s'ouvrir, il faut ouvrir la pénitentiaire, et notamment en passant par la... Il ne faut pas avoir peur de changer ce qu'on a actuellement. Il faut ouvrir, et ouvrir sur la classification des établissements pénitentiaires.
Oui, on a bien compris. Je voudrais terminer cette émission en vous posant la question, je le disais au début, vous parlez à ces jeunes qui veulent partir en Syrie, vous essayez de les dissuader. Est-ce qu'ils vous entendent, et qu'est-ce que vous leur dites? Très rapidement, on a quelques secondes.
Simplement, je leur raconte mon histoire, je ne suis pas dans le jugement moral, je leur raconte la réalité à laquelle j'ai été confronté en voyage en Afghanistan, les conséquences que ça a eu sur moi et sur ma vie.
Et j'espère
Oui, ils entendent, parce qu'elle est basée sur un vécu. Pas simplement des spécialistes qui répètent ce qu'ils ont pu lire dans des livres, mais c'est surtout une réalité de terrain. Et j'espère qu'elle est de nature à dissuader d'éventuels volontaires au départ en Syrie.
Mourad Benchelali, auteur de Voyage vers l'enfer, merci beaucoup. Merci à nos deux autres invités, Emmanuel Gautrin par téléphone, Alexandre Djouglaris, merci infiniment d'avoir été là. Merci Alexandre Serre, Pierre Pontaillé, Jonathan Brady. Lundi, vous retrouvez François Bernard. Bonne suite de programme sur RFI.